ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus Grenoble, fréquence 90.8. Nous nous retrouvons pour l'émission Apérophonie. Nous sommes l'association étudiante ID et nous vous proposons ce soir un podcast intitulé « Désillusion humanitaire ». Donc l'association ID, Initiative des étudiants pour l'échange et la solidarité, c'est l'association du master LEA, Parcours coopération internationale et communication multilingue. Les projets que nous menons sont des projets de solidarité assez variés, donc on fait des conférences sur divers thèmes, donc par exemple remise en question du système carcéral, on fait des cafés-débats, des expositions, des concerts, des clean walks ou encore des projections. Donc avec le podcast « Des illusions humanitaires », nous avons réuni 4 étudiantes de notre master afin qu'elles partagent leurs ressentis suite à leur dernier stage, donc celui du M1, qui aura été l'occasion pour elles de faire un premier pas dans le milieu de la solidarité internationale et de l'humanitaire. L'objectif est de livrer un regard critique de notre formation et ses possibles débouchés et de faire un retour réflexif sur les premiers stages. Donc moi, c'est Loïsa Bourdarias, membre du master et d'ID, et je vais encadrer les échanges. Donc après vous être présenté et avoir rapidement présenté votre parcours, expliquez ce qui vous a motivé à postuler à ce master.
Moi je m'appelle Léa Vouyamoz, donc du coup je suis aussi en deuxième année de master CICM. J'ai fait une licence LEA à Grenoble et j'ai voulu poursuivre dans ce master parce que l'humanitaire c'est vraiment un domaine qui m'intéresse depuis toujours. Depuis que je suis petite, je suis très sensible à toutes ces questions et du coup j'ai trouvé que c'était totalement en adéquation avec mon projet professionnel.
Du coup moi c'est Pauline Hubert, donc je suis aussi dans le master CICM, dans les mêmes promos que les filles. Et en fait j'ai commencé, après le bac, je suis partie un an aux États-Unis et j'ai côtoyé des personnes qui étaient issues de l'immigration d'Amérique latine. Et c'est ça qui a commencé à me sensibiliser aux questions migratoires. Et après j'ai fait un parcours LEA à Lyon et j'ai fait ma troisième année de licence au Mexique. Et là, j'ai été de l'autre côté de la frontière et j'ai été confrontée au contexte et ça m'a donné encore plus envie d'agir. Je suis restée une année de plus à faire des stages dans la gestion de projet. Et c'est ça qui a confirmé que je voulais bien faire le master CICM. Et c'est pour ça que je suis là.
Je m'appelle Naïs, je suis aussi dans le même master. Au niveau de mon parcours, j'ai fait une licence en traduction et relations internationales à Lyon. Et de base, après ma L3, je voulais prendre une année de césure pour principalement participer à des projets humanitaires et d'aide au développement en Asie du Sud-Est. Mais il y a le Covid qui est arrivé entre-temps, du coup c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit que le meilleur moyen de rester dans ce domaine-là, c'était d'étudier tout ce qui était l'envers du décor de la gestion de projets humanitaires, etc. Et du coup, ce master à Grenoble me paraissait le plus compatible avec ce projet-là.
Et du coup, moi, c'est Léona. Et sans originalité, j'ai aussi fait un parcours LEA. J'ai vécu quelques mois au Mexique, puis au Chili. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de travailler à l'international, d'abord. Je ne savais pas trop pour la partie humanitaire. Je voyais beaucoup d'amis perdre un peu de sens dans leur travail, juste après leurs études. Du coup, j'ai essayé de trouver une voie qui me permettrait de donner vraiment un sens à ce que je fais. Et au final, je suis très contente d'avoir choisi cette voie.
Merci pour vos retours. Nous vous proposons une première pause musicale. Donc, j'ai demandé à chacune des intervenantes de m'indiquer une musique qui leur rappelait leur stage. Donc, on va commencer par la musique de Naïs qui est partie en Tanzanie. Donc, si tu veux en parler un peu.
Oui, du coup, la musique, c'est Sukari d'une artiste tanzanienne qui s'appelle Zukun. C'est une musique, ça fait partie des musiques qu'on entend absolument partout, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les bars, dans les bajaji, donc c'est des tuk-tuk, donc des petits transports pour aller en ville, etc. Dans les dala-dala, qui sont les bus pour aller de ville en ville. Donc je l'ai écoutée absolument tous les jours pendant 3 mois. Donc voilà.
your trunk.
Are you a liar?
Et tu m'y même l'ambition. Ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha. Ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha. Ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa. Ila itampoteza. Ikipanda ni bala. Ikishuka no hatari. Asijepata madhara. Akaikosa na hali. Ladha yake msala. Shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala. Akitaka nampa. Aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar.
Anja, ju nja sifanyi ajizi. Na mjazi aja, ju jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga, tuliza na kitumbua. Ila jihadhari na majanga we. Usije ukaugua mana.
Ikipanda ni bala. Ikishuka no hatari. Asijepata madhara. Akaikosa na hali. Ladha yake msala. Shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala. Akitaka nampa. Aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar.
Kwa nini kasha noge?
Dambua, dambua.
Dambua sukari ni tamu kolea.
Dambua,
asema dambua.
Dambua,
dambua. We dambua,
dambua.
Alua, alua.
Dambua,
we dambua.
Nasema
dambua,
dambua.
We dambua,
dambua.
Unawaka ma unafua.
Dambua,
kiguru nyanyua.
Dambua.
Vous êtes de retour dans l'émission Apérophonie sur Radio Campus, fréquence 98, Radio Campus Grenoble, bien sûr. Je vais maintenant passer à ma deuxième question. Donc, comment cette première année de master a changé votre regard sur le monde de l'aide humanitaire? Donc, Pauline?
Ça permet, comme c'est un master qui est quand même très critique, ça permet d'ouvrir les yeux sur tous les mécanismes de l'aide internationale, sa complexité, ses enjeux, ses faces cachées, bien sûr. C'est un monde qui est très complexe. Je pense que quand souvent les gens ils parlent d'humanitaire, ils s'imaginent que on peut partir comme ça avec des programmes un petit peu à l'improviste et du coup s'improviser humanitaire. Et sauf que c'est pas du tout. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut une grosse préparation. Et ce master il nous permet vraiment d'avoir une vision globale de ce que c'est que le monde de l'aide internationale et c'est bien de prendre du recul.
Naïs, tu veux prendre la parole ?
Oui, moi je trouve que ce master, comme tu l'as dit Pauline, il nous permet de vachement développer notre esprit critique et je trouve que c'est vachement utile et nécessaire en fait quand on veut se lancer dans tout ce qui est aide humanitaire, aide au développement, que ce soit si on veut être sur le terrain, si on veut être dans les bureaux, etc. De en fait avoir les connaissances nécessaires à l'envers du décor, parce que comme je disais tout à l'heure, avant le master, je voulais partir faire des projets humanitaires en Asie du Sud-Est, mais en fait, ça avait un peu tout et rien dire, donc se lancer comme ça sans avoir le background nécessaire, c'est un peu compliqué. Donc je trouve que c'est bien, ça nous apporte énormément de connaissances, et je sais qu'après, c'est des connaissances qu'on a vachement pu développer, en tout cas moi, dans mon stage, parce que notamment le M1, c'est quand même beaucoup d'apports théoriques, même si on a quelques mises en pratique, c'est jamais vraiment quelque chose de très concret dans le sens où ça ne va pas apporter à une association en particulier ou quoi. C'est vraiment des mises en situation. Et du coup, le stage de M1 permettait vraiment de mettre en pratique tous les aspects théoriques qu'on a pu développer pendant cette première année.
Léa, tu veux...
Oui, c'est ça. Enfin, je pense que maintenant, on a vraiment tous les outils nécessaires pour vraiment faire des stages de façon efficace, pas reproduire des schémas qui ont pu être faits dans le passé dans l'humanitaire. Éviter oui, tout ce qui est vraiment assez cliché de l'humanitaire et qui a pu poser problème auparavant. Et même au-delà du master en lui-même et des cours qu'on a pu étudier, je pense aussi que le fait qu'on soit tous ensemble dans le master, on est vraiment une classe où on débat tout le temps de beaucoup de sujets, que ce soit pendant les cours ou en dehors. Et je pense que ça, personnellement, ça m'a vraiment permis de développer un esprit critique, de remettre en question certains schémas de pensée que j'avais avant. Et vraiment pour ça, c'est vrai que je trouve que maintenant, on a tous les outils nécessaires pour appréhender l'humanitaire d'une bonne façon et éviter de faire des erreurs.
Ok, donc il reste Léona.
Pour ma part, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on arrive tous avec beaucoup de bonnes intentions, même si celles-ci peuvent se révéler ne pas être de bonnes idées. Effectivement, on a de la chance d'avoir des professeurs qui sont allés sur le terrain, même si l'humanitaire, ce n'est pas que le terrain. C'est vraiment très intéressant d'avoir leur retour et ça nous aide à mieux appréhender le milieu professionnel, mais aussi les stages qu'on a pu avoir très récemment. Je pense qu'on se prend beaucoup de claques dans la figure quand on commence cette filière, notamment parce qu'on a l'idée de vouloir changer les choses alors qu'on va le voir, même dans nos stages, ça bloque un peu parfois. Et c'est un métier qui peut être très frustrant et je pense qu'on le voit très vite dans la formation. Frustrant mais pas inintéressant, donc et c'est quand même on peut faire quelque chose. Je ne veux pas désespérer tous les auditeurs, mais voilà, en tout cas très bonne formation pour l'instant. Et voilà,
merci à toutes pour vos réponses. Nous allons maintenant vous partager la musique proposée par Léa, qui est partie en Grèce. Donc Léa, je te laisse présenter ta musique.
Oui, du coup, la musique que j'ai à présenter aujourd'hui, elle s'intitule Molight. Et c'est d'un groupe palestinien qui chante à la fois en arabe et en anglais, qui s'appelle 47 Soul. Et c'est un ami qui me l'a fait découvrir quand j'étais à Samos.
Where's Bayou?
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, fréquence 90.8. L'émission Apérophonie du jour accueille l'association IDÉE qui donne la parole à des étudiantes du master LEA, parcours coopération internationale et communication multilingue à l'UGA. Nous avons parlé du master. Maintenant, je vais m'intéresser au stage. Qu'est-ce que vous attendiez de ce stage de M1? Qu'est-ce qu'il vous a finalement apporté?
Alors, moi, du coup, j'ai fait mon stage sur l'île de Samos, en Grèce. Pour soutenir les populations réfugiées qui sont là-bas depuis plusieurs années pour certaines personnes. En fait, on a eu une intervention d'une ancienne étudiante de CICM qui est partie faire son stage de 6 mois en M2 à Samos. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de partir là-bas et de me confronter aussi à cette réalité parce que c'est quand même quelque chose qui se passe aux frontières de l'Union européenne. On en est en quelque sorte responsable. Et je trouvais ça vraiment important de voir tout ce qui se passait là-bas. Et du coup, j'ai fait mon stage dans l'ONG Global Roots. C'est une petite organisation grassroots qui, du coup, opère... C'est une organisation suisse, mais qui agit en Grèce. Et du coup, c'était dans un centre communautaire pour les femmes réfugiées et leurs enfants de moins de 3 ans. Et du coup, mes missions principales consistaient à gérer le centre et j'ai aussi participé à un projet de plaidoyer sur la situation des femmes seules à Samos. Et du coup, mon stage, ça s'est très très bien passé. Je pensais que ça allait être très dur de se confronter à une telle réalité et de se rendre compte à quel point la situation était inhumaine. Et en effet, c'était difficile évidemment, mais c'est plus le retour qui a été compliqué, personnellement. Et j'ai eu la chance de vraiment être dans une association où il y avait vraiment une très bonne ambiance, où l'équipe était très attentive, attentionnée aussi, et veillait vraiment au bien-être de toutes les personnes qui en faisaient partie. Et du coup, j'ai pu me confronter évidemment à l'humanitaire, parce qu'à Samos, il y a vraiment toute une sorte d'écosystème d'ONG qui opère ensemble, main dans la main. Pas toutes, évidemment, et ça fait partie des points un peu négatifs. Mais globalement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment une réelle coopération sur place et une réelle coordination entre toutes les ONG. Et je pense que c'est assez particulier de Samos aussi du fait que ce soit une île. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir justement avec le regard critique que j'ai maintenant et de pouvoir remettre en question certaines pratiques ou certaines actions d'ONG qui sont parfois un peu moins... Oui, Nice.
Non, j'avais juste une question. Dans ton équipe, c'était une équipe assez internationale ou il y avait un peu des nationalités prépondérantes?
Il y avait beaucoup de Suisses et d'Allemands. Okay. Oui, mais que des Européens. Okay. Donc voilà. Après, vas-y, Pauline.
Okay. Du coup, moi, je suis repartie au Mexique. Je suis partie dans une association qui s'appelle Antus Puebla, donc dans la ville de Puebla. C'est une association, c'est une ONG qui s'occupe, c'est un refuge pour les femmes qui ont été victimes de trafic d'êtres humains, donc notamment dans des réseaux de prostitution. Donc elles les accueillent et elles font tout un travail avec elles, psychologique et aussi de réinsertion, pour qu'elles puissent se réinsérer après dans la société et professionnellement aussi. Et en fait, moi je suis arrivée vraiment avec l'intention de mettre en application tout ce qu'on avait pu apprendre, même si c'était pas vraiment, c'était plus des connaissances théoriques. On a quand même eu notre projet chez Toré qui était quand même assez... assez utile pour le coup, c'était assez concret. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cette fois-ci la responsabilité d'un projet et de son organisation, d'en apprendre plus donc du coup sur la gestion de projet et d'approfondir mes connaissances du terrain, notamment du point de vue du coup d'une ONG. Donc l'organisation du projet s'est très bien passée, enfin très bien passée, c'est à revoir, mais en tout cas, j'ai pu mener un projet de récolte de fonds du coup pour ce qu'ils appelaient les utilisatrices. En fait, c'était les femmes qui étaient dans ces refuges-là. Ça a été un succès, oui et non. Oui, parce que j'ai quand même pu faire le projet, récolter quelques donations, mais c'était vraiment un succès partiel parce que le projet avait plusieurs phases. Il devait aboutir à une phase un peu plus développée. Et en fait, là, je me suis confrontée au problème que j'appelle le problème du rôle du stagiaire. C'est un problème où, en fait, le stagiaire dans une ONG, il a un rôle qui est vraiment secondaire. Et ces projets passent un petit peu après tous les autres, ce qui est normal, parce que ce n'est pas les projets principaux. Mais du coup, c'est un petit peu frustrant parce qu'on a du mal à avancer et à bien développer nos projets dans ces milieux-là, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, donc la réalité de la prostitution. C'est, même si ces femmes-là sont prises en charge, bien souvent quand elles ressortent de ces refuges, elles retombent dans les mains de leurs proxénètes et de la prostitution.
Mais du coup, quand tu dis les projets des stagiaires, ils passent au plan secondaire, etc., c'est-à-dire que c'est toi qui as lancé cette idée de projet ou ils t'ont dit « Tiens, on a ce projet, est-ce que tu veux en faire partie ?»
En fait, ils m'ont demandé, ils ont dit « Voilà, notre but, c'est ça, donc tu fais le projet que tu as envie, il faut juste que tu récoltes des fonds.
Okay. »
Du coup, j'ai imaginé un projet et je l'ai monté. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport à l'organisation du terrain, c'est vrai que les filles de l'ONG, enfin c'est des femmes, étaient vraiment très occupées. Okay. Et c'était compliqué parce qu'il fallait toujours avoir l'accord de ma tutrice, qui était bien souvent occupée, donc elle n'avait pas trop le temps de gérer ça. Donc c'était compliqué d'avancer. Et puis malheureusement, le stage, il ne dure que 3 mois. Donc c'est assez
court. T'étais toute seule sur le projet ?
On était censé être 4, mais en fait les autres filles travaillaient. C'est ça, parce que les autres filles en fait travaillaient beaucoup sur d'autres versions en fait de récolte de fonds. Elles la menaient autrement.
Ok.
Moi, je me demandais juste parce que on en avait parlé avant ton départ, du coup, mais comme la situation au Mexique était un peu compliquée avant que tu partes, je me demandais si du coup tu l'avais fait complètement en distanciel ou partiellement dans les bureaux, si t'étais sur le terrain. Comment ça s'est passé au final avec le Covid ?
Au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été en présentiel. C'est juste qu'après, pour des raisons d'ordinateur qui ne marchaient pas, j'ai dû faire mon stage à moitié en distanciel. Mais oui, sinon, franchement, ça s'est bien passé. Je suis assez contente là-dessus. J'avais peur justement d'être cloîtrée chez moi et ça n'avait pas été le cas. Pas totalement.
Okay. Tant mieux. Du coup, moi, j'ai fait mon stage en Tanzanie, dans une ville qui s'appelle Moshi, qui est dans le nord du pays, au pied du Kilimandjaro. J'étais dans une ONG espagnole qui s'appelle Tattoo Project. Tattoo qui veut dire 3 en swahili. De base, je comptais pas du tout partir en Tanzanie pour mon stage. J'avais prévu de rester sur Grenoble. Et en fait, j'ai eu cette opportunité qui s'est offerte à moi. Du coup, je l'ai saisie, même si c'était un peu compliqué avec toutes les démarches, etc., au niveau de l'administration de la fac pour faire une demande de dérogation. J'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, je suis restée 3 mois là-bas et j'étais dans le département de communication et levée de fonds. Donc, je faisais tout ce qui était gestion des réseaux sociaux, bilan d'activité, rapport annuel, newsletter. Je faisais aussi tout ce qui était couverture médiatique, on va dire, quand on organisait des événements dans la communauté. J'ai participé à des demandes de subventions, de la récolte de fonds, etc. Et en gros, l'ONG Tattoo Project, donc c'est une ONG espagnole qui est uniquement basée en Tanzanie auprès de deux communautés Maasai, qui s'appellent Msitu Watembo et Londoto, qui se trouvent dans le nord de la Tanzanie. Et ils font énormément de projets d'aide au développement auprès de ces communautés. Et il y a plein de domaines, autant sur l'empowerment des femmes, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, protection de l'environnement. Dans le Women Empowerment, il y a des projets de serviettes hygiéniques réutilisables que les femmes Maasai coudent. Il y a des projets de bijoux Maasai. Il y a des projets pour les aider à monter leur propre business, etc. Donc c'est assez complet au final comme type de projet. Et un peu comme tout le monde, je pense que j'en attendais de ce stage, c'était d'avoir un peu une idée plus concrète de mon projet professionnel, dans le sens où oui, c'est très bien d'avoir les aspects théoriques au cours d'une formation, mais après il faut les mettre en pratique, parce que on a beau dire par exemple, j'en sais rien, le domaine de la communication dans les ONG, ça m'intéresse énormément, tant que on fait pas du concret et qu'on n'est pas dans le feu de l'action entre guillemets, on peut pas vraiment savoir si c'est ce qui nous correspond au quotidien. Donc voilà. Et oui, après, sur place, pendant mon stage, j'ai eu quand même quelques difficultés. Mais au final, tout s'est bien passé. Mais par exemple, j'avais une maître de stage, mais qui est partie au bout de 2 semaines de mon stage, qui est rentrée en Espagne. Sauf qu'on n'était que 2 dans le département communication et levée de fonds. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer le département, ce qui n'était pas trop prévu de base. Mais au moins, ça m'a fait prendre en prise d'initiative, en responsabilité, etc. Et en gros, l'ONG, ils bossent en anglais, en swahili et en espagnol. J'avais pas prévu de bosser en swahili parce que je connais pas cette langue et je pensais que j'allais juste devoir parler anglais et un peu espagnol sur place. Et en fait, j'ai vite compris que si je voulais survivre là-bas, il fallait que j'apprenne le swahili, quoi. Donc c'était assez fastidieux, mais au final, je suis contente d'avoir appris cette langue sur le tas. Et voilà, que de bons souvenirs finalement.
Ouais, du coup, j'avais une petite question. Oui. J'imagine que du coup, si tu n'étais pas préparée à aller en Tanzanie, comment justement tu as préparé ça? Est-ce que tu as étudié un petit peu la situation de la Tanzanie avant ton départ, ou est-ce que c'est vraiment une fois que tu étais dans le pays, comment ça s'est passé?
Ouais, y a eu un peu des deux. Forcément, je me suis renseignée un peu avant de venir sur pas mal de sujets, que ce soit la sécurité, sur les choses à faire dans le pays, un peu ce dont à quoi je devais m'attendre sur place, la culture, les traditions, ce qu'il faut faire, pas trop faire, ce qui est un peu limite dans le pays, etc. Et aussi, j'étais en contact, parce qu'en fait, ce stage, je l'ai trouvé parce qu'il y a une ancienne CICM qui était déjà partie dans cette ONG. Du coup, je lui avais envoyé un message pour qu'elle me donne un peu quelques informations. Et ça, c'était cool parce que j'ai pu être fixée sur pas mal de points et pas totalement être lâchée dans l'inconnu non plus sur place. Et après, forcément, même si je me suis renseignée avant de venir, quand tu arrives sur place, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont totalement différents de la réalité. Que rien que dans les guides de voyage, par exemple, je m'étais acheté un guide de genre Lonely Planet de Tanzanie. Au final, je ne l'ai pas du tout utilisé. J'ai fait sur le moment avec les gens que je rencontrais, les bons plans qu'on me donnait, etc. Et après, quand je suis rentrée, j'ai rouvert ce guide pour voir un peu ce qu'il proposait. Est-ce qu'au final, ce que j'ai vraiment fait, en fait, il y a plein de trucs, ça n'a rien à voir. Et là, ouais, en fait, tant que tu vis pas sur place et que t'es pas en contact avec les locaux, etc., tu t'intègres pas vraiment dans la vie sur place, quoi.
Ouais. Ok.
Du coup, je suppose que c'est à moi de prendre la parole. j'ai choisi d'aller en Colombie au sein d'une ONG qui s'appelle Cléo. Son fonctionnement est un peu particulier puisque du coup, elle propose ses conseils et son expertise à d'autres grosses structures. Et avec les fonds qu'elle récupère avec ses missions de conseil, elle mène aussi ses propres projets. Je l'ai choisi tout d'abord parce que on m'avait promis une grande liberté dans les projets dans lesquels je souhaitais travailler. Au final, la réalité a été un peu différente. J'ai été là où il y avait besoin. J'aurais beaucoup aimé travailler sur les projets dans le milieu carcéral parce que ça m'aurait permis d'entrer dans les prisons colombiennes. Et j'aurais adoré voir ça de l'intérieur. Et,
ça aurait été hyper intéressant.
C'est ça. Et voilà. Donc j'avais demandé tout particulièrement de travailler sur ce projet. Ça ne s'est pas réalisé. C'est pas la fin du monde. Du coup, moi, j'ai travaillé premièrement sur un projet pour aider les jeunes vulnérables d'une petite banlieue à côté de Cartagène des Indes, sur la côte caribéenne, du coup. L'accent de la côte en Colombie est très particulier. Donc, mes premières interactions avec ces jeunes étaient très compliquées. Ils ont beaucoup rigolé de moi, parce que j'avais un bon niveau d'espagnol de base, mais ça s'est révélé plus compliqué que prévu. Du coup, le projet a été malheureusement considéré comme un échec par la fondation qui nous l'a fait réaliser, parce qu'on n'a pas eu les chiffres nécessaires, on n'a pas atteint les buts chiffrés. Et on est très conscient dans ce milieu que c'est souvent une question de réaliser des objectifs, et c'est des objectifs quantitatifs, pas forcément qualitatifs.
C'est quoi que tu appelles but chiffré ? Enfin, c'est niveau budget, niveau personnes touchées, niveau...
En fait, au milieu du projet, il y a près de la moitié des jeunes qui ont abandonné. Okay. Parce qu'avec la Covid, c'était une situation encore plus difficile et ça a amené encore plus de précarité. Okay. Et comme le projet ne leur apportait pas assez financièrement, ils ont malheureusement décidé de retourner à leurs anciennes activités, souvent illégales pour la plupart. Donc, même si on a réalisé un beau travail avec les jeunes qui sont restés dans le projet et jusqu'au bout, ça a été considéré comme un échec. Donc voilà,
il durait combien de temps, en perspective. Le projet
il avait commencé... Oh là, ma mémoire. Il avait commencé en février et il devait se finir en juin. Projet très court pour de grands objectifs. On a évidemment demandé un rallongement, mais, et on l'a eu. Mais au final, la fondation nous a posé beaucoup de problèmes car elle ne voulait pas. Elle avait versé 50% du financement. Et quand elle a vu que les objectifs quantitatifs n'étaient pas atteints, elle a démarré une procédure contre Cléo, du coup ma structure, pour ne pas verser le reste du financement. C'est ce qui peut se passer des fois dans les ONG et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que du coup ma structure a dû mettre en avant ses fonds propres pour pallier à cette fondation qui ne voulait pas nous verser l'argent qu'elle nous devait contractuellement. Du coup, il y a des litiges.
L'envers du décor. Et comment tu t'es sentie toi justement par rapport à ça ? Est-ce que tu l'as vraiment vécu comme une frustration ? Est-ce que t'as compris que ça faisait partie du métier ou... Enfin voilà, quel était ton ressenti ?
C'était difficile parce que du coup, moi je suis arrivée après le début du projet. Donc on m'a un peu mise dedans et on m'a dit « Ok, fais de ton mieux ». Du coup, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est vrai que ça a été un peu frustrant dans le sens où on m'a donné beaucoup de responsabilités très vite. On a attendu beaucoup de moi très vite. Et je ne suis pas déçue du tout de ce que j'ai donné. Mais je suis déçue d'avoir commencé cette première expérience par un échec, même si après j'ai travaillé sur un autre projet.
Puis en vrai, même si c'est un échec, ça t'apprend énormément de choses, justement, de montrer que, bah ouais, certes, c'est cool les projets, etc., mais il y a plein de facteurs externes qui font que ça marche pas forcément, et finalement, c'est la réalité. Donc, plus tôt on s'en rend compte, mieux on peut agir. Au mieux on peut agir. Pour éviter que ça se reproduise, finalement.
Oui, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup appris. Et on ne perd pas une occasion d'apprendre. Donc ça, tout va bien. Du coup, le deuxième projet dans lequel j'ai travaillé, c'était du travail de terrain pour une énorme ONG américaine qui avait un budget 5 fois supérieur à celui de ma structure. Ouais. Et en fait... je me suis rendu compte que avoir un gros budget ne veut pas forcément dire avoir un bel impact. Donc, un peu de désillusion. Je crois qu'on est bien dans le thème de ce podcast pour ma part. Mais
c'était quoi ce projet ?
Pour faire un petit contexte, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre, en Colombie, il y a une énorme crise migratoire qui provient majoritairement du Venezuela. Et du coup, c'était un projet pour aider les migrants vénézuéliens à mieux s'intégrer sur le territoire. Un projet plutôt sur l'entrepreneuriat et économique. Et en fait, ce qui m'a beaucoup dérangée personnellement, et finalement ce qui était très dommage, c'est qu'on a promis une certaine somme d'argent à des migrants et on leur disait, si vous venez et vous nous présentez un projet entrepreneurial, on vous suit, on vous accompagne, on vous donne les fonds, etc. Et en fait, la réalité du terrain, c'est que c'était des gens qui n'avaient pas d'eau courante, qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas Internet. Comment espérer qu'ils montent des projets entrepreneuriaux déjà qui fonctionnent? Et en plus, comment ne pas s'occuper de leurs besoins primaires?
C'était pas cohérent, quoi.
Bah, c'était pas l'urgence, en fait. C'était des gens qui avaient besoin d'autre chose. Et c'est ça qui est dommage, même si sur le terrain, les gens étaient très... Les bénéficiaires étaient vraiment contents et ils ne se plaignaient pas du tout de l'aide qui leur était donnée parce que, de toute façon, ils ne vont pas se plaindre parce que c'est une aide et on prend ce qu'il y a à prendre dans la vie. Mais voilà, on se sent frustré. En plus, bah, c'était pas le projet de ma structure, donc qu'est-ce que je peux y faire? C'est des personnes que je suis allée rendre, auxquelles je suis allée rendre visite. J'avais une heure et demie à leur consacrer et je n'allais jamais les revoir. Du coup, c'est très frustrant parce que bon, je vais les voir, je vais dans leur vie quotidienne, je repars, ils ne me verront plus, je ne peux rien faire de plus.
Tu étais toute seule sur le projet de Cléo?
Je travaillais avec deux autres personnes, seulement on avait chacun une région attitrée. Donc en fait, moi, quand j'allais sur le terrain, j'étais souvent seule, donc ouais, avec mon taxi.
Mais qui t'emmène à l'aéroport au lieu de t'amener au travail, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce que justement tu penses que c'est un manque de connaissance du milieu humanitaire et des outils qui sont nécessaires pour justement avoir accomplir vraiment ce qu'on veut entreprendre? Dans le sens, est-ce que l'ONG américaine en question avait vraiment les outils nécessaires pour intervenir ou est-ce que c'était
pour
pas
le cas? Pour avoir un réel impact.
Alors du coup, s'ils ont fait appel à nous, je pense que ça révèle un manque de moyens humains au sein de cette ONG, principalement. Après, ils avaient les connaissances théoriques, c'était des gens très formés pour la Colombie, évidemment. Après, mince, j'ai oublié la fin de la question.
Enfin, est-ce que justement, ils avaient les connaissances en gestion de projet, par exemple?
Oui, ils avaient toutes les compétences ce qu'on apprend, en tout cas, dans le terme... désolé les auditeurs, mais cadre logique, arbre à problème, tout ça, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Je pense juste qu'ils étaient très éloignés de la réalité du terrain. Ils s'y rendaient peu. Et voilà, c'est difficile. Après, c'était une ONG qui avait beaucoup de fonds des États-Unis. Donc, en fait, elle est forcément impactée par ce que veulent faire les États-Unis en Colombie. Donc voilà, il y a toute une question de est-ce qu'elle est vraiment indépendante? Est-ce que c'est les États-Unis qui décident comment elle va agir en Colombie? Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça qui joue. Et voilà.
Merci beaucoup pour vos retours. Nous allons passer à une pause musicale avec la musique proposée par Pauline, qui est partie au Mexique. Donc Pauline, je te laisse un peu parler de ta musique.
Oui, et du coup c'est la Canción Sin Miedo, donc la chanson sans peur, on va dire. Qui a été faite par Vivir Quintana et El Palomar. Et en fait, c'est un chant militant en fait, qui dénonce le problème de féminicide au Mexique, un problème extrêmement
présent,
oui. Voilà. Et en fait, c'est un chant donc, des femmes qui veut dire, en fait, on est là et on se battra jusqu'à la fin pour obtenir notre liberté. Et voilà, c'est une lutte... qui ne s'en ira pas.
Ah. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, fréquence 90.8. L'émission en cours est un podcast intitulé « Désillusions humanitaires » que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Campus Grenoble et sans doute sur nos réseaux sociaux. J'ai une dernière question à l'intention des intervenantes. Donc après avoir fait vos retours sur le master, le stage, quelles sont vos ambitions maintenant pour le stage de M2 et même après ?
Merci Louisa. Du coup, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ou pas, mais il y a un peu deux domaines différents dans l'humanitaire. Il y a l'humanitaire pur et dur, c'est-à-dire plutôt l'urgence, tout simplement. Je crois que ça définit bien ce que c'est. Et l'aide au développement, qui sont des projets un peu plus sur le long terme. Beaucoup
plus.
Il n'y a
pas spécialement de crise à régler, etc.
Voilà, pas forcément pas dans des contextes de conflit, etc. Plutôt de reconstruction et d'amélioration des conditions de vie. Et du coup, moi, les projets auxquels j'ai participé étaient un peu plus sur le développement. J'ai beaucoup échangé avec des camarades qui ont fait leur stage plutôt dans l'urgence et dans l'humanitaire. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais en plus profiter du fait que ce soit un stage pour voir si j'en suis capable, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde, à mon avis. Donc j'aimerais profiter du stage pour voir si je peux gérer le stress, la frustration, un contexte compliqué. Je pense que ça nous permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes et je pense que c'est l'occasion parfaite. Après, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué comme projet parce que toutes les zones où il y a de l'humanitaire et de l'urgence, c'est des zones où la fac ne nous permet pas d'aller. Du coup, il y a quand même quelques endroits qui font matière d'exception. C'est vrai que c'est totalement normal, la fac ne peut pas nous envoyer dans des endroits très dangereux et qui mettent en péril notre sécurité, ce qui est totalement normal. Donc, je vais voir si je trouve quelque chose qui me plaît et si je peux faire de l'humanitaire à proprement parler.
Alors, personnellement, je n'ai pas encore une idée très précise de ce que j'aimerais faire après le master. Là, j'aimerais bien profiter de ce stage de 6 mois du coup, qu'on a cette année en M2 pour continuer à travailler dans l'aide au développement, dans la continuité de mon stage de M1. Mais après, ça fait un peu tout et rien dire parce qu'il y a tellement de métiers possibles dans ce domaine qu'il faut que je trouve principalement une organisation, une structure dans laquelle je peux faire le stage dans un domaine qui m'intéresse et voir après en fonction des missions est-ce que ça peut me correspondre ou pas. Mais dans tous les cas, je pense que vu que j'ai pas une idée claire, tant que je vais pas sur... Tant que je ne mets pas en pratique les aspects théoriques qu'on apprend là cette année en M2, je ne pourrai jamais vraiment savoir si ça me correspond ou pas. Donc je suis un peu ouverte à toute possibilité de stage. Mais après, j'aimerais beaucoup aller en Amérique latine pour faire ce stage parce que je n'ai pas un niveau d'espagnol très développé. Donc ça m'aiderait pas mal quand même. Et voilà, il faut que je regarde tout ça, mais c'est dans l'idée.
Du coup, moi, ça serait plutôt dans l'idée de gestion de projet, mais plutôt dans le développement. Toujours au Mexique. Voilà. Et puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est toutes les questions migratoires, aussi la protection des femmes et des enfants, dans des ONG ou des instituts du gouvernement. Voilà.
Et moi, du coup, pour le coup, mon stage de M1, ça a vraiment été une révélation, on pourrait presque dire. Mmh. Et ça a vraiment défini mon projet professionnel dans le sens où maintenant, je ne me vois pas trop faire autre chose que continuer à travailler dans le contexte migratoire. Et je trouve que, en fait, j'aimerais bien continuer en Grèce notamment parce que je pense que le travail est loin d'être accompli. Et je trouverais ça vraiment intéressant de voir un peu la suite. Soit l'évolution de la situation toujours à Samos ou bien à Athènes où du coup maintenant il y a énormément de personnes réfugiées ou demandeurs d'asile qui s'y trouvent et pour qui c'est très compliqué. Donc du coup voilà, j'aimerais continuer je pense plus dans l'urgence et toujours sur le terrain et voilà.
Merci à toutes et merci à Radio Campus Grenoble de nous avoir accueillis dans leurs locaux aujourd'hui. Nous ne savons pas encore si ce podcast aura une suite. C'est possible parce qu'on est 23 étudiants dans la promo. Donc on vous laisse avec une dernière musique, celle de Léona, partie en Colombie. Donc Léona, si tu veux parler de ta musique.
Cette musique-là, moi, elle me rend heureuse. Elle me rappelle l'Amérique latine. C'est un continent que j'adore. C'est une culture chaleureuse. C'est la joie de vivre et avec pas beaucoup. C'est vraiment une culture qui me parle et j'aime ce continent. Même si je ne suis pas allée partout, je ne fais pas de généralité, mais je pense que je pourrais être heureuse là-bas un peu partout. Du coup, je vous laisse écouter. Te Encontré de Juan Valdo, creo. A ver.
Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que besito tan bonito, esa boquita rosadita. Me hace sentir el dueño del mundo. Ay, 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 que lo creería, que yo me enamoraría así, así. Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti, mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti. Todo, 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 todo mi mundo junto a ti. Cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita. Me hace sentir el dueño del mundo. Ay, 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 ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría así.
Me hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras.
L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!